Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme aux francophones vous retransmet un cours de Talmud. Tenida, page 41, Daf Mem Aleph. Bonne écoute et bon limoud.
Par rétorque, et la maille de Kadashim, donc quoi, tu veux me dire qu'il s'agit de ce qui concerne les korbanot, mais imo imo nafka, ceci également on l'a appris du verset imo imo, qu'il n'est pas kadosh, puisqu'on a le mot imo dans les deux phrases, on apprend du bechor qu'il n'est pas kadosh. La Gemara dit non, haïmaï, ce que tu dis, non, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire que ce que tu dis n'est pas logique. Yama bishlama de kadashim, si tu dis, comme je veux le prétendre, qu'il s'agit des kadashim, cela va bien. Haïnoud et tarikhe trekae. Ceci justifie qu'on ait besoin de deux versets. Rashi nous dit le verset de imo imo, et également l'exclusion de zot, zot torah taola. L'une concerne le cas d'un animal, donc d'une mère qui n'était pas consacrée pour un sacrifice, qui était chol, et qui a eu un petit par césarienne, et qu'ensuite on lui ait donné une kedusha. Nous apprenons de imo imo qui n'a pas de kedusha par la comparaison. Quant au mauvais hôte, il vient parler d'un autre cas, il vient de parler d'un enfant qui est né d'une mère qui est déjà, enfin d'un enfant, d'un petit qui est né d'une mère qui est déjà Kodesh et qui est né par césarienne. Alors les quelques mots suivants, que savar vladot kadashim bavilatanen kadoshim, d'après Rashi, il ne faut pas les lire. Donc je les traduis, mais il faut les enlever du raisonnement. Et il pense que lorsque une bête destinée au sacrifice, une femelle, met un petit au bas, dès qu'il naît, il est kadosh. Rashi dit, puisque l'autre opinion et qu'il est déjà kadosh avant de naître, ça n'a aucune espèce d'impact sur notre raisonnement. Suite de la Gemara, et là il y a marque de Bechor, mais si tu me dis que ça vient nous parler du Bechor, ni Peterechem Nafka, on l'a déjà appris du mot Peterechem, et la Gemara dit, Achinami Mistabra. En plus, il est logique que tous les psoulines que nous parlons ici, il s'agit d'animaux qui sont déjà Kodesh. La preuve, c'est la liste qu'on a faite. Étant donné que toute la liste des disqualifications qui vont avec ce Yotze Dofan, c'est l'animal qui a été victime de bestialité, celui qui a été mêlé à la Avodah Zarah, celui qui est né d'un croisement, et donc il s'agit de cas qui sont comparables. Rashi explique en détail, je passe sur ces détails, pour chacun de ces cas, pourquoi il est vraisemblable qu'il s'agit d'animaux qui étaient déjà des sacrifices. Kadashim. La Gemara s'insurge en disant que toutes ces exclusions viennent de versets différents de celui qu'on a apporté ici. Elle dit la chose suivante. Ané me'acha nafka. Il dit tous ces cas d'exclusion viennent d'ici. Mais atam nafka. C'est de là-bas qu'on apprend. Mina be'ema. Dans le premier chapitre, au tout début de Vayikra, il est marqué Mina be'ema. Tu apportes un korban. Mina be'ema, l'otsi, arovea v'anirba. Ceci vient exclure des animaux qui ont été mêlés à un acte de bestialité. Mina bakar, dans le même verset, l'otsi est un évad. Ceci vient exclure l'animal qui a été idolâtré. Mina tson, l'otsi est amoukse. Mina tson vient exclure les animaux qui ont été destinés à être une offrande pour l'idolâtrie, pour la vodazara. Ou mina tson, et le mot mina tson, l'otsi est anogéar. Ceci vient exclure l'animal qui a tué un homme, veut tout. Et de plus, qu'il aille me'ach nafka, est-ce que l'interdiction des animaux issus de croisement vient d'ici? Mais atam nafka, ils viennent d'un autre verset, qui est le verset bien connu dans Emor, du chapitre 22 de Vaïkra, Shor Ochesev Oez. Donc il s'agit soit d'un bovin, soit d'un mouton, soit... Nous reprenons la suite du Daf 41a, même Aleph Amoud Aleph, Vetu Kil Aïm Me'achadafka. La Gemara s'interroge sur ce qui vient d'être dit, à savoir qu'un certain nombre d'invalidations d'animaux proviendraient du mot Zot, de Zot Torah Taola. Et en particulier, on va s'interroger d'abord sur Kil Aïm, c'est-à-dire un animal issu de croisements dont le père et la mère ne sont pas de même type. Par exemple, croisement, comme le dit Rashi, d'une chèvre avec un mouton, avec une brebis. Est-ce qu'on l'apprend d'ici? Me'acha nafka? Me'atam nafka? C'est d'un autre verset. Il s'agit du verset 27 du chapitre 22 de Vayikra, dans la paracha de Emor, dans lequel il est écrit Shor, Ochesev, Oez, c'est-à-dire un bœuf ou un mouton ou une chèvre, et l'on dit shor, le mot shor, prat lechil haïm, vient exclure le cas d'un animal né d'un croisement et qui ne doit pas être apporté en tant que korban. Oez, ou bien une chèvre, prat le nidme. Ceci vient exclure d'amener un animal qui serait non ressemblant, littéralement nidme, contrefait, qui est non ressemblant à ses parents, mais qui ressemble à une autre espèce, Rachidi par exemple, une brebis qui met au monde un animal qui a une tête de chèvre, ou l'inverse. L'agma a dit, et là, il s'est rihu très créé. Ce n'est pas un problème, il était nécessaire d'avoir deux psukim qui viennent enseigner la même chose, parce qu'on a deux catégories d'interdictions qui découlent de ces psulim, de ces problèmes. Chad le behemat roulin, un verset vient nous apprendre l'interdiction de sanctifier en tant que korban un animal qui était totalement profane et qui aurait l'un de ces problèmes. Chad le behemat kadashim, l'autre vient nous apprendre qu'un animal qui était déjà consacré et qui a été même apporté sur l'autel, on doit le faire redescendre s'il est porteur de l'un de ses défauts. Achanami, ici également dans notre problème de Yotzedofan, c'est-à-dire d'un animal qui est né par latéralement, par césarienne, Itzterir Trekrae, il était nécessaire que nous disposions de deux versets, l'un pour le cas d'un animal qui était totalement chol, qui est né par césarienne, pour nous dire qu'on n'a pas le droit d'en faire un sacrifice, et l'autre pour nous dire que si néanmoins on a sanctifié, on a fait un kadashim avec l'un de ces animaux nés par césarienne, quand bien même il est déjà, ses parties à brûler sont déjà sur l'autel, on doit les faire redescendre. Autrement dit, on a bien une preuve pour l'enseignement de Rabbi Yochanan. La Gemara nous apporte une autre braïta, on revient un peu au problème des accouchements, et notamment de l'accouchement qui se fait lorsque la femme est zava. Simplement, on va avoir un problème d'un accouchement qui, au lieu d'être un accouchement naturel, se fait par césarienne, et la braïta que l'on va citer va se poser le problème de savoir si l'accouchement a le pouvoir de dispenser de ziva la... Tanou Rabbanan, nos maîtres enseignés, Amekashash le Shayamim. Une femme qui a eu 3 jours consécutifs de douleur avec saignement, et il s'agit du cas où ces 3 jours consécutifs font partie des 11 jours de ziva. Et donc le problème se pose de savoir est-ce qu'elle va s'appeler ou non Yoledet Bezov. Alors la Braïta continue en disant Veyatsav la derech dofen, l'enfant est né latéralement par césarienne, Arezou Yoledet Bezov. D'après les Chachamim, d'après Tanakama, le début de la Braïta, il pense qu'elle est considérée comme Yoledet Bezov et elle n'a pas droit en quelque sorte à la dispense qui est due à l'accouchement, l'accouchement n'ayant pas été naturel. Rabbi Shimon Omer, tandis que Rabbi Shimon y dit En zo Yoledet Bezov, cette femme n'est pas considérée comme ayant accouché en étant Zava Agdola, malgré les 3 jours consécutifs de saignement, parce que d'après lui, une naissance même suite à une césarienne donne aux douleurs précédentes le caractère de sang de l'accouchement, sang prénatal, non pas de sang qui serait de caractère de Zov. Deuxième point de discussion, de Damayotse Misham Tamé. D'après les Chachamim, le sang de la naissance sera impur. Rabbi Shimon Metaé, Rabbi Shimon dit que ce sang est pur. On va voir plus loin dans la Gemara de quoi il s'agit exactement. La Gemara demande Bishla Maresha, je comprends le début de la Braïta, Rabbi Shimon Tamé. Rabbi Shimon suit sa propre opinion, c'est-à-dire qu'il considère qu'une naissance par césarienne a toutes les caractéristiques halakhiques d'une naissance normale. Et puisque cette femme a accouché après ce saignement, elle n'est pas devenue Zava. Rabbanan et Tamayou et Chachamim, c'est-à-dire le Tanakama, sont également conformes à leur enseignement, suivant lequel une naissance par césarienne n'a pas le caractère halakhique d'une naissance normale. Et là, ces femmes, et dans la deuxième partie de la Braïta, on est étonné, mais Maï Pligé, sur quel point porte la discussion entre les Chachamim et Rabbi Shimon. Amar Ravina. Ravina répond que Gon Shiatsav Lad Derech Dofen. Il s'agit d'un cas un peu particulier où effectivement, comme on l'a dit, l'enfant il est né par césarienne, donc il est sorti par le côté latéral de l'aine. Nous avons ainsi terminé le DAF Mem Aleph Amoud Aleph.
Vous êtes en plein cours de Gemara avec Torah Box. Et n'oubliez pas, chaque mot d'étude équivaut à accomplir les 613 mitzvot.
Passons en tournant la page au Hamoud Bet 41b, le Dam, tandis que le sang qui s'est écoulé et dont on parle et qui fait l'objet de la discussion à la fin de la Braïta, lui, il s'est écoulé derech rechem par la voie naturelle, autrement dit par le vagin. La Zabi Shimon Tamé, Et donc Rabbi Shimon, il est logique avec lui-même, c'est-à-dire que, étant donné qu'elle n'est pas Zava, ce sang est pur. Rabbanan et Tamayou, tandis que les Chachamim suivent leur logique également, et d'après eux, puisqu'elle est Zava, ce sang est impur. Matkifla Rav Yosef. Rav Yosef, il vient objecter à ce qu'a dit Ravina. Chada, première objection, d'Aïnou Recha, que si le cas était tel que l'a décrit Ravina, c'est-à-dire que l'enfant est né latéralement et que le sang s'est écoulé par la voie naturelle, ceci revient exactement à dire ce qui était dit au début de la Braïta et ça n'a pas vraiment d'intérêt. Le Od. Et de plus, le terme utilisé par la Braïta qui dit le Dam Hayotse Misham, le sang qui s'écoule de là-bas, Makom Valad Mashma. Ceci implique logiquement que Sham, là-bas, c'est l'endroit d'où l'enfant est né, c'est-à-dire par l'incision qu'on a faite au ventre de la mère et non pas par le canal vaginal. Et là, Rav Yosef, et donc Rav Yosef, en vertu de ses objections, propose une autre explication. Que Gonsiatsav Lad Vedam de Rechdofen. Il s'agit bien, comme on l'avait compris au départ, qu'aussi bien l'enfant que le sang dont on parle, s'écoule par l'ouverture qui a été faite latéralement. Et quelle est la discussion? Une discussion qui a déjà été vue antérieurement dans la Gemara. Ou même Makor, mais comment t'amé kami plégué? La discussion entre Tanakama et Rabbi Shimon est de savoir si l'utérus en tant que tel est un endroit qui rend impur le sang qui s'en découle. Mar savar me comment t'amé, l'un pense, c'est-à-dire les Tanakama, les Chachamim pensent que l'endroit même de l'utérus est impur et donc le sang qui va s'écouler, bien qu'il ne s'écoule pas par la voie vaginale, va être automatiquement impur. Ou mar savar me kor me comment t'amé, tandis que Rabbi Shimon pense que l'utérus n'est pas un endroit qui rend automatiquement tahor le sang qui s'en écoule, et d'après lui, donc ce sang qui s'écoule en même temps que la césarienne, par la plaie, n'est pas un sang impur, quand bien même il a pour origine l'utérus. Amar Resh Lakish, quant à lui, il dit, le divra metame vedam metame beisha. D'après celui qui dit que le sang est tamé, c'est-à-dire d'après le Tanakama, la femme est impure également. Autrement dit, ça doit être considéré comme du sang de Nida. Les livrés à Metaher, de dame, Metaher, de Isha. Tandis que celui qui considère que ce sang est pur, c'est-à-dire Rabbi Shimon, la femme elle-même doit être également considérée comme pure. Autrement dit, d'après l'explication de Resh Lakish, Rabbi Shimon pense qu'une femme ne peut devenir Nida si le sang ne s'écoule pas par le canal vaginal. Rabbi Yochanan, quant à lui, n'est pas en accord avec ce que pense Resh Lakish. Rabbi Yochanan Amar, afle divrei metamei vedam metamei v'isha. Même les chachamim qui disent que le sang qui s'écoule là-bas est impur, pour autant ils ne disent pas que la femme va avoir le statut d'une nida, et ils la considèrent comme pure. Vazda Rabbi Yochanan l'etamei, et lorsque Rabbi Yochanan dit cela, il est cohérent avec sa propre manière de raisonner. Damar Rabbi Yochanan mishum Rabbi Shimon ben Yochai. En effet, Rabbi Yochanan a enseigné au nom de Rabbi Shimon, le fils de Yochai. Minayin she'enisha temeat she'etzemat vederech ervata. D'où sait-on qu'une femme n'est jamais impure en tant que Nida ou Zava, tant que son écoulement ne vient pas à travers son organe de reproduction? Chez Nehemar, comme il est marqué, Veisha Sharishka Vesisha Dava, lorsqu'un homme aura une relation avec une femme qui est en train d'avoir ses règles, Vegila et Ervata, et qu'elle a découvert son vagin, et Mekora Era, il a ainsi découvert ce qui est son utérus. Et Melamed, la manière de s'exprimer de ce verset qui vient du 18e pasouk du chapitre 20 de Vayikra, Melamed nous enseigne, c'est Enisha Temea, qu'une femme n'est pas impure en tant que phénomène de d'écoulement de sang de Nida ou de Zava, ad sheyetse madve derech ervata, tant que l'écoulement en question ne vient pas à travers son organe de son vagin. Amar Resh Lakish mishum Rabbi Yehuda Nesia. Resh Lakish, lui, dit au nom de Rabbi Yehuda Nesia. Rabbi Yehuda Nesia était le petit-fils de Rabbeinu Akadosh, et c'est en son nom que Resh Lakish dit la chose suivante, Mekor Sheneikav Nafal Haaretz. Lorsque un utérus, littéralement, mais d'après les commentaires, il s'agit d'un morceau de l'utérus, s'est détaché, Neekav, Nafal Haaretz, et il est tombé par terre, donc il a passé par la voie naturelle, et la femme a perdu une partie de son utérus. Temea, la femme est Temea comme si elle avait eu un saignement. Chez Nehemar, parce qu'elle est marquée, parce qu'il lui est extrait du Nach du 16e chapitre de Yechezkel, le verset 36, et là-bas l'expression utilisée par Yechezkel est la suivante: Ya'an ishafer nechushter vatigaler vater, parce que tu as déversé une partie de ton organe le plus bas et tu as révélé ta nudité. Et on considère ici que nechushter, c'est l'utérus donc qui s'est déplacé et qui est sorti à l'extérieur, et la femme est impure. La Gemara demande les mailles. Quel type de touma ceci va-t-il donner à la femme? Il est mal à touma tshiva. Si tu me dis qu'elle va être effectivement impure pendant 7 jours, comme si elle était nida, comme on aurait pu le penser au début, dama marachamana. Akadosh Baruch Hu, il a parlé pour rendre une femme nida d'un écoulement de sang, velo chaticha, et non pas d'un morceau de chair. De là, on voit donc qu'il s'agit d'un morceau de l'utérus qui s'était échappé par la voie naturelle. Et là, le touma terev. Même d'après cette opinion de Rabbi Yehuda Nessia, la touma en question n'est qu'une touma pour la journée, et le soir, elle peut aller au mikvé. Bien entendu, sous réserve qu'il n'y ait pas d'autres saignements. Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan dit à son tour, « Mekor sheizia bishkishte tipe margaliot. » Si l'utérus d'une femme a laissé s'écouler comme à peu près 2 gouttes qui sont comme des perles, c'est-à-dire que c'est un sang qui est totalement blanc ou transparent, Temea, elle est malgré cela impure, la femme, l'émail. La Gemara demande encore une fois, quel type de touma s'agit-il? Il est mal à touma tshiva, si tu vas dire qu'il s'agit de 7 jours, hamisha damim temin beisha vetula. La tradition rapportée par la Mishnah que nous avons déjà étudiée, Daf Yud Tet Amud Alef, dans notre Maseret, dit qu'il n'y a que 5 couleurs de sang qui peuvent rendre impure une femme, et pas davantage. Or, cette couleur dont on parle ici, Margaliot, la couleur d'une perle, manifestement ne fait pas partie des couleurs de sang qui rendent impure. Et là, donc, il ne peut s'agir que le Toumaterev pour la rendre impure jusqu'au soir. Pourquoi? Parce que ce liquide a été en contact avec l'utérus, un peu comme l'utérus lui-même, d'après l'opinion de Resh Lakish au nom de Rabbi Yehuda Nessia précédemment. Et l'Agma rajoute encore une précision, mais Dafka Tarté, ceci n'est dit que s'il y a eu 2 gouttes qui se sont écoulées. Aval Hadam, et s'il en a une seule, Emma me Alma Atia. On est en droit de penser qu'il ne vient pas de l'utérus, mais qu'il vient d'une autre source, et par conséquent, on considérera la femme comme étant pure. Nous revenons maintenant à la Mishnah, et l'Agmara cite le passage suivant de la Mishnah, Kol Anashim Mitam Me'in Babayit Achitson. Toutes les femmes deviennent impures lorsque leur sang est dans ce qu'on appelle Bayit Achitson, si on peut dire la maison extérieure, c'est-à-dire qu'il a quitté l'utérus sans être pour autant à l'extérieur du corps. Et alors l'Agmara va s'interroger sur la précision, sur l'endroit exact qu'on appelle ici Bayit Achitson. Edi ou Bayit Achitson. C'est quoi Bayit Achitson? Amar Resh Lakish, Resh Lakish répond, Kol Shetinok et Yoshevet Venir At. Toute partie du vagin qui est visible lorsqu'une petite fille est assise. Amar le Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan lui a rétorqué à Resh Lakish, Otomakom Galuyu et Tselcheretz. Cet endroit qui est directement visible, il n'est pas considéré comme intérieur, mais comme à l'extérieur du corps. Et si elle est en contact avec un Sheretz, qui est une source d'impureté, elle va devenir impure. Or, nous avons un principe que, en dehors peut-être du sang de Nida, qui a un caractère particulier, toute touma de contact ne peut rendre impure une personne que si le contact se fait à l'extérieur du corps. Mais si le contact se fait dans les parties internes du corps, il ne peut pas y avoir d'impureté. Puisque l'endroit qu'a décrit Resh Lakish est un endroit où le contact d'un Sheretz, qui est une source, qui est un Avatouma, qui est une source d'impureté, rend impur par contact la petite fille, par conséquent, ça ne peut pas être appelé Bayit Achitson, un endroit qui est quand même intérieur, n'est Achitson que par rapport à l'utérus. Et là, Amar Rabbi Yochanan, et c'est pourquoi Rabbi Yochanan dit non, ad ben Hashinaim, jusque ben Hashinaim, entre les dents, littéralement, probablement entre les petites lèvres, qui sont un peu plus à l'intérieur. La Gemara se pose une question. Ibayeleu. La question suivante a été posée. Ben Hashinaim, cet endroit entre les petites lèvres, Kelifnim ou Kolachut, lui-même, l'endroit est-il considéré comme l'intérieur? C'est-à-dire que s'il y a du sang, la femme n'est pas encore impure, ou Kolachut, ou bien comme l'extérieur, et c'est-à-dire que s'il y a du sang là-bas, la femme est déjà impure. Tashma de Tani Rabbi Zakai. Viens et apprends ce qu'a enseigné Rabbi Zakai dans une Beraita. Ad Ben Hashinaim. Ben Hashinaim Atzman Kelifnim. lorsque l'on a dit jusque entre les petites lèvres, Ben Hashinaim Atzman Kelifnim, entre les petites lèvres elles-mêmes, c'est considéré comme si le sang était à l'intérieur, autrement dit, la femme n'est pas encore impure. Ben Matnita Tana, toutefois, on a une braïta qui enseigne qu'il s'agit tout à fait d'un autre endroit, Makom Disha, l'endroit littéralement du labour, et l'agma demande Maïm Makom Disha. Qu'est-ce qu'on appelle l'endroit du labour? Amar Rav Yehuda a répondu, mais comme Shamash Dash, c'est l'endroit où l'organe masculin laboure en quelque sorte la femme pendant une relation. Tanou Rabanan, nos maîtres enseignent dans une braïta, on va discuter dans cette braïta, quel est le statut du sang qui provient de l'utérus mais qui n'est pas sorti à l'extérieur. Le verset qui parle de l'impureté d'une femme, le verset 19 du chapitre 15, dit Veisha Kiti et Zava. Lorsqu'une femme sera atteinte d'un écoulement sanguin, Damiye Zova Bifsara, son écoulement étant un écoulement de sang dans sa chair, le mot Bifsara est très important, Shivatiamim Tiebenidata, pendant 7 jours elle sera impure au titre de Nida. Et donc, dit la Braïta, Bifsara, dans sa chair, mais la Metse Mitame Abifnim Kebachutz. Ceci vient enseigner qu'elle est impure lorsque le sang est encore à l'intérieur, comme si le sang était déjà à l'extérieur. Venye la Nida. Ceci n'apporte une preuve que pour le statut de Nida, puisque c'est de cela dont il est question dans ce verset. Zavaminaïn, d'où sait-on que le même principe s'applique pour les 100 des 11 jours qui suivent les 7 jours de Nida, et pendant lequel un écoulement, s'il est consécutif pendant 3 jours, peut lui donner le statut de Zava. Talmud Lomar, le verset dit Zova Bifsara. On prend la proximité du mot Zova, qui veut dire l'écoulement, mais qui est également un peu en trop, on aurait pu dire Dam Yie Bifsara, puisqu'on est Dam Yie Zova Bifsara, ça vient nous apprendre également que pour une Zava, un écoulement qui a quitté l'utérus la rend impure, quand même il n'est pas encore à l'extérieur de son corps. Et, dit la Braïta, il y a encore un autre cas où on va se poser la question de savoir si la femme elle est impure lorsque un écoulement qui provient de son utérus n'a pas encore atteint l'extérieur. Il s'agit du cas où elle laisse se réécouler du Shikhvat Zera, donc de la matière séminale qu'elle a reçue de son mari ou d'un autre homme. Pour l'été de Shikhvat Zera Minaïn, d'où sait-on qu'une telle impureté va atteindre la femme lorsqu'elle rejette du sperme? Talmud Lomar, le verset dit, Yihye. Ce mot Yihye, Dam Yihye Zova Bifsara, le mot Yihye est également en plus, et vient nous enseigner que le même principe d'impureté dans sa chair s'applique lorsqu'il y a eu un écoulement, évidemment que l'on peut déceler, de sperme à partir de son utérus, quand bien même il n'a pas quitté le corps de la femme. C'est l'opinion de la Braïta, mais Rabbi Shimon Omer, tandis que Rabbi Shimon il dit différemment, vers Rabbi Shimon Omer, Daya que voilà, il lui suffit à cette femme d'avoir le même type d'impureté que l'homme qui a cohabité avec elle. Nous parlons donc de ce cas de sperme qui s'échappe de l'utérus de la femme. Et le Rabbi Shimon raisonne ainsi. De même qu'en ce qui concerne l'homme qui a eu une relation avec elle, il n'est impur lorsqu'il émet du Shikhvat Zera que lorsque cette Tum'a est à l'extérieur de son corps. Afi, de même pour elle, elle ne peut pas être impure, sous-entendu, par un écoulement séminal venant du Shikhvat Zera que l'homme avait injecté en elle. Jusqu'à ce que cet écoulement soit à l'extérieur. Donc Rabbi Shimon fait une distinction entre les écoulements sanguins provenant à l'origine de la femme et ce deuxième type d'écoulement qui est totalement différent. La Gemara s'étonne un peu, ça va Rabbi Shimon daya que voilà. Est-ce que réellement Rabbi Shimon pense qu'on se contente de lui donner le même statut que celui de l'homme avec qui il a eu une relation? Ve'atania, pourtant une braïta enseigne. Rachatsu b'amayim etamu adaherem. Ceci concerne un homme et une femme qui ont eu une relation. Et il est marqué à ce propos, c'est le 18e verset du chapitre 15 de Vayikra, je prends le verset dans son intégralité, Vishah, Shahishka, Vishotav, Shikhvadzera. Si un homme a une relation fécondante, en quelque sorte, avec une femme, dans laquelle il y a eu émission de Shikhvadzera, de matière séminale, Rachatsuva Maim Tamewa Daerev, ils se tremperont dans l'eau et ils seront impurs jusqu'au soir. Et à propos de ce verset, dans la Braïta, Rabbi Shimon nous dit, Amar Rabbi Shimon, Rima Bazel Lamedenu. Qu'est-ce que ce verset vient nous enseigner? Im le inyan ogev shikhvat zera, si c'est pour nous dire que la femme elle a touché à l'extérieur de son corps la matière séminale avec Varnehemar, le Mata, Oish. Il a déjà été dit un peu plus loin, Oish. C'est un verset qui est dans le chapitre 22 de Vayikra, le verset 4, et qui dit « Oh, ish asher tetsemenu shikhvatzera » si un homme laisse sortir du shikhvatzera, tout celui qui le touche est tamé. Donc on n'a pas besoin d'un verset particulier pour nous dire qu'une femme qui a touché le shikhvatzera d'un homme à l'extérieur de son corps va être impure. Et là, donc, autre, obligatoirement, « Mipnes et tumat betastarimi » il s'agit d'une... d'un passou qui vient nous dire que malgré le fait qu'il s'agit d'une touma qui est dans un endroit caché, et la règle générale est qu'une impureté qui se trouve à un endroit caché ne rend pas impur, comme nous l'avions mentionné il y a quelques instants. Et là, mais il y a ici une dérogation par décision du verset à la règle qui fait que la femme va devenir impure avec le contact de cette matière séminale, malgré le fait que ce contact ne soit qu'intérieur. Donc il semblerait que Rabbi Shimon soit en contradiction avec lui-même. La Gemara dit l'akashia, ce n'est pas une difficulté. Kan bi mesha meshet. Dans le cas que nous venons de dire, il s'agit du cas où le contact s'est fait lors d'une relation maritale entre l'homme et la femme. Et là, il y a la xerat akatuv qui fait que malgré le fait que la matière séminale est à l'intérieur du corps de la femme, elle devienne impur. Kan bepoletet. Tandis que ce qui a fait l'objet de la discussion entre Rabbi Shimon et les Chachamim dans la Braïta que nous avions citée auparavant, c'est le cas d'une femme qui s'est déjà purifiée par rapport à la relation qu'elle a eue avec un homme, mais qui, plus tard, va laisser s'écouler du zera, donc shikhvat zera, de son corps. Et là, il y a la règle habituelle, dit Rabbi Shimon, qu'elle ne sera impure que lorsque cela se trouvera à l'extérieur de son corps. La Gemara s'étonne, j'ai un peu déjà répondu à la question, la Gemara dit pour les têtes. Si tu parles d'une femme qui a laissé s'échapper de la matière séminale après une relation, Tepukle de Hashimsha, de toute façon elle est déjà impure par le fait qu'elle a eu une relation avec un homme, comme nous venons de le voir. Et la Gemara répond, Beshe Tavla, le Shimusha, il s'agit du cas. Le cas dont parle Rabbi Shimon, c'est lorsqu'elle est déjà allée au mikvé et qu'elle s'est débarrassée de l'impureté qui était liée au fait d'avoir eu une cohabitation avec émission de sperme avec un homme. Et cette impureté avait déjà disparu, et plus tard, elle laisse s'écouler de la matière séminale. L'agma dit, le même de Meshameshet de Tumaterev Sagila, est-ce que cela veut dire qu'une femme qui a eu une relation avec un homme, elle se contente, en quelque sorte, si on peut dire, Sagila, il lui suffit d'avoir une impureté jusqu'au soir, de Ha'amar Rava. Pourtant, Rava nous a enseigné. Kol Shloshayami Masura, Meshameshet Kol Shloshayami Masura. Une femme qui a une relation, pendant les 3 jours qui suivent, il lui est interdit l'échol bitrouma de manger de la terouma, c'est-à-dire que nous considérons, comme on a déjà eu l'occasion de le citer, et d'ailleurs, entre parenthèses, c'est une notion que la science n'a reconnue que très récemment, à la fin du XXe siècle, donc les Chachamim savaient que la capacité de fécondation de la matière séminale ne dure que 72 heures. Et donc c'est de cela dont parlait Rava. Si une femme a eu une relation pendant les 3 jours qui suivent, c'est-à-dire les 72 heures qui suivent, il lui est interdit de manger la trouma. Pourquoi ? Il est impossible d'éviter qu'elle rejette un peu de la matière séminale. Et donc, comme le Rashi l'explique, puisque pendant les 3 jours elle est de toute façon interdite en raison de la relation qu'elle a eue, comment est-ce que Rava a pu dire d'ailleurs que Boala qu'elle se contente d'être impur jusqu'au soir comme l'homme qui a eu une relation avec elle? Il y a donc là un problème. La Gemara répond à Chabemin Askinan, ici de quoi parle-t-on? Chez Itbilua Bamita, on a amené la femme au mikvé alors qu'elle était encore sur son lit, c'est-à-dire qu'en fait elle ne s'est pas mise verticalement depuis qu'elle a eu cette relation, et par conséquent on n'a pas lieu de penser, on n'a sûrement pas une certitude qu'elle ait pu rejeter une partie de la matière séminale. C'est pourquoi le mikvé est suffisant pour elle et efficacement. Il est effectivement efficace, elle n'est pas impure. D'après cela, la Gemara s'interroge et dit Miklal, ceci implique donc de Rika Amar Rava, que lorsque Rava avait dit que la femme reste impure pendant 3 jours, de Azlaï Bekhara Vetavla, qu'elle est allée elle-même à pied depuis son lit et qu'elle est allée au mikvé. Mais dans ce cas-là, quelle est la certitude que l'on a qu'elle va encore émettre du sperme plus loin? Dilma ba'ade de kazla, shadita. Peut-être que la totalité de la matière séminale qu'elle était amenée à expulser a été glissée hors de son corps pendant qu'elle marchait, avant qu'elle aille au mikvé. Et donc nous n'avons qu'une certitude et aucune raison de penser qu'elle deviendra impure ensuite. Nous avons ainsi terminé le DAF, même Aleph.
Nous espérons que ce cours a été apprécié. Retrouvez sur le site torah-box.com gratuitement un cours sur chaque page du Talmud, ainsi que le DAF Ayomi, quotidiennement en vidéo.